Merlin 2000, je suis au PEL 2016 et je suis en compagnie de Natacha et d'Adèle, co-créatrices de la société Ilinx Édition qu'ils viennent de créer il y a peu. Et j'aimerais, on va un peu discuter de leur projet. Bonjour.
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 Alors d'abord, qu'est-ce que Ilinx Édition ?
Alors Ilinx Édition, c'est une jeune maison d'édition littéraire qui a la particularité de ne publier des ouvrages qui ont toujours le jeu dans leur sujet.
D'où votre présence à PEL, du coup.
D'où notre présence à PEL.
Et alors, la société existe depuis longtemps ?
Pour l'instant, on est sous statut associatif. La société va être créée d'ici un mois et demi, en fait. On est dans la levée de fonds, tout se passe bien, mais voilà.
D'accord. J'ai vu sur votre stand que vous proposiez déjà un produit. De quoi s'agit-il ?
Exactement. On propose les coloriages de Pierrot, en fait, qui sont des coloriages issus de jeux de société qu'il a illustrés. Il y a 8 jeux différents, je crois. Donc, c'est une trentaine de coloriages de difficultés croissantes.
Les premiers coloriages, en fait, vont être sur les premières pages du cahier, vont être plus destinées à un public plutôt enfant, plutôt jeune, avec donc du tracé très simple. Et puis, plus on va progresser dans le livre et plus on va avoir une augmentation du nombre de détails dans l'illustration, etc. etc. Donc, voilà, pour illustrer ça, au début, on est sur de l'illustration avec Rampage et à la fin, on finit avec une illustration de Ghost Stories. Voilà. Et au milieu, on a du Mr. Jack, on a du Medieval Academy, on a des grands jeux phares de Pierrot.
D'accord. Souvent, pour ce type de coloriage, on a des modèles en couleur. Là, j'ai cru voir que c'était que en noir et blanc, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, c'est un choix. C'est en noir et blanc afin de permettre la libre créativité vraiment de tout le monde pour ne pas donner un modèle particulier. On voulait vraiment que les gens se sentent libres, s'ils voulaient aussi de pouvoir mettre un personnage multicolore ou de pouvoir faire un arbre jaune s'ils en avaient envie, quoi.
D'accord. Donc là, vous avez quelques exemplaires en vente sur le salon. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu l'opportunité de se rendre sur le salon, comment pourraient-ils se procurer cet ouvrage ?
Alors, on est distribué par BlackRock, donc on espère dans les boutiques proches de chez eux, dans les boutiques de jeux proches de chez eux, d'ici 2 à 3 semaines, ouais, ça devrait être disponible. C'est disponible.
Quand vous écouterez, ce sera probablement disponible, ou en tout cas proche de l'être. Mais bon, c'est normal. À la radio. Donc c'est une distribution uniquement boutique de jeux ou vous avez déjà pas travaillé sur une distribution également en librairie ?
Alors la distribution en librairie, on y pense. Là pour l'instant, nous on a fait le choix de travailler avec un distributeur de jeux puisque tous nos ouvrages, encore une fois, traitent du jeu et qu'on souhaite d'abord s'adresser à notre public qui est intéressé par nos ouvrages en fait et on souhaite leur mettre à disposition en premier. Et bien sûr, on a dans nos objectifs d'intégrer le réseau du livre, mais là on sera sur un second temps en fait.
D'accord, donc on démarre avec ce cahier de coloriage Pierrot. Peut-être d'autres projets dans les cartons proches ?
Alors oui, et un projet qui est actuellement en Kickstarter en fait, sur un artbook, l'artbook de Pierrot encore une fois. Pierrot fête cette année ses 10 ans de carrière à travers ce livre, il va pouvoir montrer... l'évolution de son travail dans le milieu, l'évolution du travail d'illustrateur de jeux de société. Et cet artbook, en fait, sera enrichi avec des contributions extérieures, avec son partenariat avec l'auteur de jeu, avec une contribution de Bruno Catala, son partenariat avec les éditeurs, avec une contribution d'Hicham de Matago. Donc c'est un ouvrage qui est en Kickstarter. Donc si vous nous écoutez actuellement et que vous êtes intéressé pour soutenir le milieu ludique et l'œuvre de Pierrot, mais je vous invite à aller sur la page et d'amener votre contribution.
Vous avez déjà une idée de comment trouver le projet ? Il y a un mot-clé à rechercher particulièrement ou déjà une adresse ?
Il y a un site dédié en fait pour la campagne. On a fait un site internet dédié. Ouais, alors du coup, il faut que ce soit.
Donc c'est Pierrot Artbook Tens. Donc Pierrot, c'est son prénom, hein, artbook comme un artbook, et Tens comme dixième en anglais.
Pierrot avec un RO, je suppose. Comme son,
ouais, comme... Avec un O, comme son nom, tout à fait. C'est vraiment... voilà, je pense que si on tape sur Kickstarter Pierrot's Artbook, ça devrait trouver.
Sinon, il y a le lien sur le site d'Ilinx Édition. Voilà.
Et donc, l'adresse internet de Ilinx ?
Ilinx Édition avec un S.com.
Vous démarrez avec Pierrot. Est-ce que vous avez d'autres auteurs actuellement déjà dans les tuyaux dont vous pourriez parler ? D'autres illustrateurs ?
D'autres illustrateurs. Alors, concernant les coloriages, on va avoir un deuxième numéro qui va sortir avec les coloriages de Maveva Cosmic et de Christine Deschamps.
Après, voilà. Sur les illustrateurs, aujourd'hui, on n'a pas de projet en cours avec un autre illustrateur. Après, on a d'autres projets en cours. On a 4 collections dans notre maison d'édition. Et dans ces 4 collections, il y a plus ou moins 3 projets qui sont déjà en cours, qui devraient arriver dans les mois qui viennent.
Pour les auditeurs qui voudraient vous rencontrer, est-ce que vous avez déjà planifié des salons ou des événements où on pourrait vous retrouver dans les prochains mois?
On est au Flip, sur le stand de BlackRock, donc cet été au Festival ludique de Partenay du 9 au 16 juillet.
Très bon festival, à côté de chez moi d'ailleurs.
Très bon festival, oui, effectivement. Ce sera un grand plaisir, là encore. Forcément, c'est notre premier en tant qu'exposant. Et sinon, on sera présent à SN, évidemment, pour remettre l'artbook, si la campagne se passe bien, et que, voilà, pour remettre l'artbook en main propre à ceux qui auraient fait le déplacement. Sinon, on fera aussi une soirée pour la...
Pour la fin de la campagne participative, en fait, dans la fin du mois de juillet, on aura une soirée au Centre National du Jeu à Boulogne, pour remercier les pledgers qui voudront bien venir, et normalement avec présence de Pierrot pour une dédicace. D'autres choses, puisque l'artbook ne sera pas encore présent, bien évidemment. Mais les livres de coloriage seront là. Et puis après, c'est l'occasion de venir avec les boîtes de jeux et de rencontrer Pierrot et de discuter du projet, etc.
Ben, c'est très bien, c'est ça. Ben, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un complément à dire ?
Mais du coup, on peut peut-être juste dire sur nos différentes collections. Aujourd'hui, sur la collection qu'on appelle Idée du jeu, on a 2 ouvrages qui vont arriver dans les mois qui viennent, qui sont une traduction de Game Design Workshop de Tracy Fullerton, qui est... donc un manuel à destination des auteurs qui veulent avoir des conseils sur le game design. Et on a aussi un ouvrage d'Oriol Coma-Sicoma sur l'évolution du jeu et l'histoire des jeux de société. Qui arrive. Tout à fait.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas. Et puis je vous souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle aventure.
Merci à vous.
Merci.
Toujours Merlin de Ménil sur le PL 2016 et je suis sur le stand de Devil Pink Games avec Yann. Bonjour Yann.
Bonjour.
Alors, parle-nous un petit peu du PEL pour toi.
Bah en fait, le PEL, c'est un événement sur lequel on aime bien venir chaque année parce que ça nous permet de rencontrer notre public et de présenter nos nouveaux jeux qui vont sortir bientôt. Et voilà, d'ailleurs, il y a Clément qui arrive, qui est mon associé et co-auteur.
Bonjour Clément.
Bonjour monsieur.
Et vous avez sur votre stand, j'ai vu Carnage qui a fait l'objet d'un Kickstarter il y a peu. Où en êtes-vous de l'avancement ?
Alors on a quasiment terminé. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait prévu une livraison en octobre, mais on va pouvoir le livrer en septembre.
Ah, je suis persuadé que les backers seront très heureux s'ils n'ont pas déjà eu l'information. Et donc tout s'est bien passé pour la campagne ?
Tout s'est super bien passé, on a eu un très très bon retour du public, des gens, des backers et ça nous a vraiment fait chaud au cœur.
Est-ce que le projet a beaucoup été travaillé depuis la campagne ou on était déjà dans une forme presque finale ?
On était déjà presque en forme finale parce qu'on avait bien préparé. Mais par contre, il y a eu quelques modifications qui fait que maintenant, il est encore un peu plus abouti. On a refait beaucoup de choses sur l'illustration, sur le statut des unités, sur pas mal de choses. Donc on va avoir une version qui va peut-être un tout petit peu surprendre les gens, mais pas dans le mauvais sens. C'est une version améliorée de ce qu'ils ont vu jusqu'avant. Ce qu'on fait en général sur tous nos Kickstarter, c'est que derrière, au moment de la réalisation, on développe vachement nos graphiques, nos règles, on rajoute du matos, enfin, pour le bien du jeu, en fait.
Oui, j'avais eu la chance de l'essayer à l'Asmodée il y a à peu près 8 mois maintenant. Il n'y avait pas les illustrations, il n'y avait pas tout ça, mais on avait déjà une belle ambiance générée pendant l'événement avec les cris autour du carnage. Et d'ailleurs, on vient d'en entendre un. Est-ce que vous avez d'autres projets qui vont suivre dans les cartons ?
Oui, alors on a deux projets qui vont enchaîner directement, c'est-à-dire on a le Tower Defense, qui est un vrai Tower Defense avec des petites tours et des monstres qui avancent sur des chemins, et pas un Castle Defense comme font beaucoup en disant que c'est des Tower Defense. Derrière, on a Heroes, le jeu de cartes aussi, qui est quasiment terminé en fait, et qui devrait sortir. C'est un système de bataille sur la Heroes of Normandy, mais à l'échelle de la compagnie, et en jeu de cartes, c'est un jeu rapide, tactique et efficace. Et voilà, ça c'est nos prochains projets. Derrière, on travaille sur la suite de la gamme Heroes. Et il y a des choses que je ne peux pas dire là maintenant. Mais on s'oriente plutôt vers le médiéval, sauf surprise.
D'accord. J'étais fan des médiévales. Je jouais beaucoup à la série Cryavox Siege il y a longtemps. Et c'est vrai qu'avoir un Heroes dans cet univers, en tout cas, me plairait beaucoup à titre personnel. Bon, bah non, c'est pas encore certain, si je comprends bien. C'est dans la.
C'est un des prochains, c'est sûr.
Ah, donc voilà. C'est bien.
Sauf contre ordre, on attend une réponse de quelque chose, donc je ne pourrais pas parler. Mais voilà. Donc, le prochain, c'est sûr que c'est du médiéval.
Les futurs projets continueront à être portés par Kickstarter au niveau des lancements, ou vous avez autre chose en tête en termes de modèle ?
Non, on va continuer comme ça, parce qu'on a des productions qui sont lourdes de moyens humains chez nous en interne, et c'est des grosses productions, donc ça coûte cher à fabriquer. Donc non, on va continuer le modèle Kickstarter pour tous nos projets. Ça c'est obligé. Maintenant c'est comme ça. Voilà.
Vous avez malgré tout des partenariats avec des boutiques qui se font, qui permettent aussi de retrouver vos produits assez facilement. Dans le circuit classique après les Kickstarter.
Oui, tout à fait. Et nous, on veut travailler aussi. En fait, l'idée maintenant, c'est qu'on veut vraiment mettre une politique sur les boutiques pour les faire participer au Kickstarter, pour que ce soit avantageux pour eux aussi et qu'elles ne soient pas lésées par les Kickstarter. En fait, on est en train de réfléchir à un plan qui serait gagnant-gagnant, en fait. Voilà l'idée.
C'est souvent la grosse difficulté pour les Kickstarter par rapport aux boutiques. Et Carnage, on va le retrouver à quel moment dans le circuit classique ? J'ai cru comprendre qu'il arrivait donc en septembre pour les backers, pour les clients qui n'auraient pas backé, qui seraient intéressés par le jeu.
Alors déjà, il sortira pour Essen, juste avant Essen, il sera disponible dans les boutiques. C'est-à-dire que septembre pour les backers, octobre pour tout le monde, début fin septembre, dès qu'on a fini de livrer les backers, ça part en boutique.
Ah d'accord, merci. Un dernier mot peut-être ?
Salut tout le monde. Non, là ça va, on est content d'être là en fait. On est content de notre public et c'est un très bon événement le Paris Ludique, c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur en fait, qu'il faudrait booster d'ailleurs.
Déjà cette année avec la nouvelle localisation, on a vraiment grandi au niveau des surfaces disponibles, on est beaucoup moins serré, c'est quand même beaucoup plus agréable.
Beaucoup moins poussiéreux. Nos photos s'en souviennent.
Oui, moi, il n'y a pas que les photos, les cheveux et autres, les yeux se souviennent.
Tout, c'est vrai qu'on était bien poussiéreux l'année dernière. C'était l'Africa Corps.
Ouais, et en plus, cette année, il fait beau. Donc, on a vraiment tout. Bah, merci beaucoup et puis bonne continuation en tout cas.
Bah, merci à toi et merci à tout le monde en fait.
Main du Ménil, au PEL 2016, je suis sur le stand de Capsicum Games et je suis avec un des Didier de la société Capsicum. Donc bonjour Didier.
Bonjour.
Parle-nous un petit peu de PEL 2016 pour toi.
Eh bien écoute, c'est une première pour nous, PEL 2016. On était venu l'année dernière mais sur un autre stand, sur le stand de Ravage, où on avait présenté Fleet Commander. Et cette année, donc, on a décidé de prendre un stand pour nous. Parce que c'est un événement quand même majeur et comme on est parisien, à la limite, il faut qu'on soit à PEL, quoi.
Ah, les produits que vous présentez cette année sont quand même assez différents de Fleet Commander, du coup.
Oui, tout à fait, parce que chez Capsicum Games, on a un petit peu deux jambes. On a la jambe, le cœur est partagé entre Fleet Commander, on va dire, qui est un de nos produits phares et qu'on pousse beaucoup. Et puis, d'un autre côté, on a d'autres jeux, parce que c'est un peu notre passion, et on a envie de présenter d'autres jeux que Fleet Commander. Et on a donc une autre gamme, avec Sigil, Noxford, Kodama, et voilà.
Oui, donc j'ai pu jouer à Kodama hier. C'est une localisation ou c'est un jeu que vous éditez ?
Alors, c'est une localisation, tout à fait. En fait, à l'origine, c'est un jeu qui s'appelait Kigi de Daniel Solis, qui avait été une première fois édité plus ou moins à compte d'auteur. Et ensuite, Action Facts Game, qui est un éditeur américain, avait repris le jeu pour lui et ont édité donc Kodama. Ils ont fait un Kickstarter qui a plutôt bien marché et qui a attiré notre attention.
D'accord, donc moi j'ai pu y jouer hier, j'ai trouvé le jeu assez plaisant. Donc c'est un jeu avec rivière où on va construire son arbre et essayer de faire un arbre avec un certain nombre de, enfin, je vais pas dire de décorations, mais d'éléments qui vont permettre de scorer. Quand est-ce qu'il est prévu aujourd'hui ? Parce qu'il est en présenté ici en avant-première.
Oui, et ben on va recevoir, ça y est, il est imprimé. On doit recevoir les boîtes dans les semaines qui viennent et la sortie est prévue pour les premières semaines de septembre.
Première semaine de septembre, donc à la rentrée des vacances. Et vous présentez également d'autres jeux que je ne connais pas pour l'instant.
Oui, et ben on présente aussi Noxford. Lui, la sortie est prévue pour le mi-octobre, pour Essen. Donc Noxford, c'est un peu la suite spirituelle de Sigil, puisque c'est l'auteur Henri Kermarek et le jeu est illustré par Maud Chalmel. Et c'est un jeu de cartes où on va construire une ville, gagner en influence, un jeu de placement.
Pourquoi est-ce la suite de Sigil ?
C'est la suite spirituelle, alors pas du tout dans le thème et pas trop dans la mécanique, mais avec Henri et Maud, en fait, on s'était fait vraiment plaisir sur Sigil à travailler ensemble. Et tout de suite après la sortie du jeu, on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on en refasse un ensemble, parce que ça marchait bien, enfin la mayonnaise prenait bien. Et du coup, j'ai demandé à Henri de nous faire un autre jeu sur le même format à peu près, et qui serait illustré par Maud.
D'accord, donc en fait une commande d'éditeur pour tout dire.
Ah oui, tout à fait, un peu comme Sigil d'ailleurs.
D'accord, d'autres projets pour les mois à venir ?
Oui, beaucoup. On a prévu une sortie à Cannes, mais je ne peux pas encore vous dire exactement ce que ce sera. En tout cas, on travaille sur des projets absolument passionnants avec Juan Rodriguez et Fabien Riffaut, qui nous font un jeu. On a aussi d'autres jeux avec les frères Baum comme auteurs. Et voilà, on a pas mal de jeux en stock de signés sur lesquels on travaille en ce moment. Maintenant, c'est en fonction de l'évolution de ce travail justement qu'on va planifier les sorties.
D'accord, vous avez dit que Fleet Commander était votre projet phare, un projet auquel vous teniez à cœur. Quel est son futur ?
Alors aujourd'hui, Fleet Commander, il a eu un Kickstarter, donc vous savez peut-être en début d'année, qui a très bien marché. Donc là aujourd'hui, notre priorité, c'est de fournir tous les backers, donc de finir les développements, de faire toute la mise en page, etc. Donc ça avance bien. C'est l'essentiel de notre travail en ce moment quand même, hein, de produire le jeu pour le livrer dans les temps.
Oui, j'avais vu le projet. Je crois qu'il y avait un stand-alone qui était proposé en plus du jeu de base, si je me souviens bien.
Exactement. En fait, on a un jeu de base, donc Genesis, qui est un petit peu une réédition de Ignition et Beyond the Gate qui était déjà sorti sur le marché français. Donc, et derrière, on a quand même quatre nouvelles extensions. Donc en fin d'année, quand on va livrer les backers, on a aussi quelques jeux qu'on va mettre en boutique un petit peu après. Et en gros, on va avoir donc un gros jeu de base plus 4 extensions, donc il y a 5 références qui arrivent sur le marché en fin d'année pour Fleet Commander.
Et toutes les références seront mises en boutique simultanément comme pour les backers ?
A priori, oui.
D'accord, merci beaucoup. Et puis bonne continuation et puis bonne fin de PEL en tout cas.
Merci beaucoup à vous aussi.
Merlin Desménil, toujours à PEL 2016. Je suis en compagnie de Cyril, d'Istaru ou d'Espèce Cowboy, ou des deux.
Les deux.
Bonjour. Alors, comment se passe ce PEL pour toi ?
Très bien. On a plein de monde. Les gens ne l'entendent pas, mais peut-être que... on a vraiment une très grande tente cette année où on fait plein de démos, de plein de trucs. Et notamment, je fais la démo de mon nouveau jeu. Donc, ça se passe plutôt très bien. On a dû rajouter des tables... et c'est assez marrant. C'est un jeu qui s'appelle 59-59, qui est une simulation avec des cartes d'une escape room.
D'accord. Effectivement, il y a deux tables. Ça se passe du coup en temps réel ?
Ouais, complètement. C'est vraiment le but, c'est de. Moi, je fais beaucoup d'escape room dans la vie. J'en ai fait une trentaine. Et le but, c'est vraiment de recréer à peu près toute l'ambiance qu'on a dans une escape room, mais autour d'une table et juste avec des cartes. Donc, ça se joue en temps réel pour une équipe. Tu peux aller de 2 à 5, voire même plus. On a eu des équipes de 6 qui réfléchissent tous ensemble pour sortir d'une pièce en une heure.
D'accord. Et donc, comment ça va se présenter ? Vous avez déjà une idée un peu de la façon dont va être construit le produit ?
Ouais. Alors, dans l'idée, pour l'instant, ça peut encore varier. Ça va sortir en février. Donc, d'ici là, voilà. Ce qu'on veut faire pour l'instant, c'est une boîte format Splendor dans laquelle il y aurait 3 escape rooms complètes, plus une escape room de démo. Celle de démo servant à se familiariser avec le système de jeu qui n'est pas bien compliqué, mais on n'a pas envie que les gens se gâchent une des enquêtes. Donc, on a mis une escape de démo un peu plus simple et ensuite 3 enquêtes de difficulté graduelle. Et tout ça dans une boîte format Splendor à 30 euros.
D'accord. Et comment ça va se passer avec les extensions probables si le jeu fonctionne ?
Alors ça, je ne sais pas encore. Effectivement, si le jeu fonctionne, il y aura probablement des extensions. Ce sera peut-être d'autres boîtes qui sortiront ou ce sera peut-être à l'unité. Mais ça, je n'ai pas encore l'info. Faut déjà toucher du bois pour que le jeu fonctionne.
D'accord. Bah, vu l'extension des escape rooms et le succès que ça rencontre aujourd'hui, c'est vrai que ça pourrait... en tout cas, c'est un marché prometteur.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est ce qu'il y a de... Enfin, après, les gens ne me croiront pas, mais c'est pas vraiment un... ça n'a pas été fait par opportunité, si tu veux. Moi, quand j'ai conçu le jeu, en fait, dans les fêtes, je joue beaucoup à des escape rooms. Et puis un matin, j'ai eu une idée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu une porte, une clé, chacune avec un numéro, et en les additionnant, on obtenait un nouveau numéro. Et je me suis dit, tiens, c'est un bon mécanisme, simple et direct. Et en fait, je me suis dit, mais ce sera très bien pour une escape room. Et donc voilà, c'est né comme ça. C'est pas né de la volonté vraiment de faire un truc d'escape room. Et au début, c'était tellement simple comme système. Je me suis dit, mais ça va jamais... Enfin, au début, je me suis dit, c'est génial. Puis j'ai commencé à créer une escape room en faisant ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est tellement bêta, ça va jamais marcher. Et en fait, je l'ai fait tester et ça a très bien marché. Donc voilà comment est né le produit, quoi, en fait.
Oui, bah en fait, moi, j'ai vu l'explication. Donc, effectivement, c'est très rapide. Et j'ai vu un groupe de joueurs qui étaient très satisfaits de leur partie démo, déçus de ne pas avoir fait le record, mais en tout cas, qui étaient très déçus, enfin, très, très heureux de leur partie et très déçus d'avoir, de ne pas avoir battu la meilleure équipe.
Oui, alors là, on a vraiment une escape de démo sur le salon. Donc, elle fait très peu de cartes. Elle est destinée à être jouée très vite et à apprendre les systèmes. Mais c'est vrai qu'on a une espèce de petite émulation entre équipes. Alors, tout le monde ne sort pas, c'est ça qui est marrant. Sur celle de démo, on a à peu près 70% de taux de sortie. Donc, il y en a 30% qui ne sortent pas. Mais bon, quand même, les gens ont l'air satisfaits. C'est cool parce que, en fait, ça, c'est vraiment que le début. Nous, ce qu'on a prévu, par exemple, j'ai créé une escape room donc, qui sera dans la boîte de base. Et j'ai dit, surtout, je ne veux pas en créer d'autres pour l'instant. Je veux que ce soit d'autres auteurs pour qu'on ait des styles différents. Donc, on va avoir des ambiances différentes, des petites règles. En fait, l'avantage d'avoir d'autres auteurs, c'est qu'ils tordent légèrement le système à leur convenance et que donc le style de l'escape room change. On va avoir des choses un peu spéciales qui vont se passer au fil de l'avancée des escape rooms. Vraiment, le but, pour moi, c'est de donner une boîte à outils et qu'après, les gens se l'approprient et fassent leurs propres escape rooms, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais en démo à Rennes avec le jeu il y a 15 jours, 3 semaines. Et donc, j'ai fait jouer. Et là, j'ai vu un gars qui est venu me voir hier matin. Il a dit, tu te rappelles de moi ? Je fais, bah ouais, ouais. Il fait, bah oui, j'étais à Rennes, j'en ai écrit une. Et donc, hier, je l'ai testée. En plus, elle est bien.
Et donc, en 15 jours, il a réussi à en créer une qui tourne pas trop mal, c'est ça ?
Ouais, alors après, c'est le début. Il faut qu'il y ait... Pour l'instant, avec 36 cartes, etc. Mais franchement, déjà, les bases sont là et elles sont super intéressantes, quoi. Donc, c'est génial.
Et il n'y a pas un gros travail d'illustration, un peu quand même.
Si, quand même. Bah là, on travaille avec de la démo, donc on va chercher des images sur Google Images, etc. Mais après, il va falloir l'illustrer. C'est pour ça que ça va sortir, même si actuellement on doit avoir 4 ou 5 escape rooms de prête, on va sortir qu'en février, parce que maintenant, il faut illustrer tout ça, même trouver un titre. Pour l'instant, ça s'appelle 59-59. Est-ce que ça va rester 59-59 ou pas ? On ne sait pas. Le look, tout ça, enfin, y a encore... Maintenant, il faut faire tout le boulot d'édition. On a fait la partie amusante, il faut faire la partie moins amusante, on va dire.
Dans les autres projets, j'ai vu une belle vitrine sur le stand qui présente de très belles boîtes à venir. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, bien sûr. Donc, c'est Sherlock Holmes, la gamme va s'agrandir. Dans l'idée, on a relooké tout ça parce que ça commençait à faire un peu... Enfin, moi, je pense que le look était déjà bien. C'était déjà une belle avancée par rapport au vieux classeur de 1985. Mais on s'est dit, bon, bah, là, on va faire une nouvelle boîte. Ce serait bien de lui mettre un nouveau look. Et donc, dans la foulée, on va rechanger le look de la première boîte. Donc, la première qui va... Et maintenant, surtout, on nous a beaucoup demandé de plus trop faire éventuellement les extensions à l'unité parce que ça embête les boutiques. Ils ont du mal à les mettre en avant, etc. Donc, maintenant, on va sortir des boîtes stand-alone avec 10 enquêtes à chaque fois. Donc, bien entendu, les extensions actuellement en vente continuent à rester en vente, hein, c'est pas un souci. Mais là, donc, il y a une nouvelle boîte qui va sortir à la rentrée, qui sera une boîte avec 10 nouvelles enquêtes, 6 qui sont West End Adventure, des enquêtes qui étaient sorties dans les années 80 et qui n'ont jamais été éditées en France, et 4 qui sont la campagne pour arrêter Jack l'Éventreur. Donc voilà, et ça sera la nouvelle boîte, mais avec une carte, avec un annuaire, donc on n'a pas besoin d'avoir la boîte de base pour la jouer. Et par la suite, on ressort le jeu de base avec le nouveau look. Bien naturellement, ceux qui ont l'ancienne boîte, ce n'est pas la peine de la racheter, sauf si vous craquez sur le nouveau look.
Sachant que si on achète la nouvelle extension, on aura de quoi jouer en stand-alone, la nouvelle carte, etc.
Oui, du coup. Tout à fait. Vraiment, une boîte contient tout ce qu'il faut pour jouer. Voilà. On aura la nouvelle jolie carte, en fait, parce qu'elle est plus jolie. À l'époque, on avait dû la faire un peu ric-rac. Là, on a trouvé un gars qui était assez fou pour redessiner toute la carte.
D'accord. Et pour les années prochaines, déjà des projets dont tu pourrais parler ou pour l'instant, c'est pas complètement mûr?
Oh oui, alors bah déjà, en plus, la gamme Sherlock Holmes va d'autant plus s'étendre qu'on sort aussi Watson et Holmes, qui était déjà en démo à Cannes, qui est un jeu d'enquête aussi, avec Watson, avec Holmes. La grosse différence, c'est qu'il n'est pas coopératif, mais compétitif. Les joueurs, il y a 13 cas dans la boîte, c'est avec des cartes cette fois, et les joueurs vont se battre pour être le premier sur les lieux, pour recueillir les témoignages, et donc c'est le premier qui trouve la solution qui gagne. Bien entendu, c'est les enquêtes un poil plus simples que Sherlock, mais toujours très maline.
Oui, j'aime beaucoup. J'avais acheté la version espagnole en anglais à Essen. J'ai fait quelques enquêtes. Et c'est vrai que ça change parce qu'on a les questions au démarrage au lieu de les avoir à la fin. Et cet aspect compétitif d'être le premier à trouver la solution, c'est quand même très agréable.
Ah bah oui, surtout que les enquêtes sont quand même très malines. Elles sont très progressives dans la difficulté. Et puis, bon, disons ce qui est. Effectivement, la version espagnole a été sortie à très peu d'exemplaires. Donc tu es un des rares à l'avoir. Et le niveau d'anglais requis était quand même assez chaud. C'est-à-dire que, bien entendu, tu arrivais à le lire, mais de temps en temps, un petit dico, ça pouvait aider pour comprendre le mot que tu ne comprenais pas vraiment, etc. Donc là, l'avoir en français, ça va être vraiment une amélioration, quoi.
Oui, c'est vrai. Et au niveau, justement, il y avait une certaine complexité du langage en anglais. En français, ce sera plus abordable ou ça va être à peu près pareil?
Bon, j'irai entre les deux. On a quand même tenté de faire un mimi. C'est-à-dire que c'est quand même bien écrit, mais on va pas demander aux gens de jouer avec un dictionnaire de français.
Voilà, donc quelqu'un qui parle normalement français, ouais, ou même des enfants pourront commencer à y jouer.
Après, je pense que c'est quand même 12-13 ans parce que il faut. J'ai toujours beaucoup de mal à déterminer l'âge requis pour jouer à un jeu. Donc moi, je pense qu'en dessous de 12-13 ans, il faut quand même faire de la déduction, tout ça. Mais bon, après, ça dépend tellement des enfants aussi. J'ai vu des enfants de 7 ans jouer à Tigris et Euphrates ou à Kélus. Donc partant de là, je pense qu'ils peuvent jouer à Watson et Holmes, qui est quand même un jeu assez familial quand même. Enfin, c'est un peu comme Sherlock Holmes, en fait. On a vraiment toutes sortes de publics sur Sherlock Holmes.
Finalement, c'est peut-être plus facile de manipuler des cuves en bois que d'aller lire des textes et des interpréter, malgré tout.
Oui, oui. Après, nous, maintenant, on a enfin réussi, après tant d'années, à avoir une espèce de double casquette, en fait, finalement. On a d'un côté le jeu de cube en bois et de l'autre côté le jeu plus narratif. Et pour Istari, ça a été long de se sortir de ce carcan, qui est un carcan agréable, hein, Shakespeare, tout ça, du cube en bois, et de faire comprendre qu'on pouvait faire d'autres choses. Et c'est Sherlock qui nous l'a permis. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a un peu les deux spécialités. On a d'un côté le jeu de cube en bois bien léché comme on sait faire, et de l'autre côté, on sait faire aussi des jeux narratifs. Premièrement, Sherlock Holmes, Watson et Holmes, Witness, qui en a été un, et le jeu d'Escape Room, qui en sera un aussi. Donc voilà.
D'ailleurs, où en est-on de Witness? Ça s'est bien vendu? Il y a d'autres projets autour, ou ça va rester en Black & Mortimer, tel qu'aujourd'hui ça a été lancé?
Alors, il y a un projet. On ne sait pas si ça va se faire ou pas, mais il y a des chances. Ça s'est vendu correctement, c'est pas non plus la folie, mais bien correctement quand même. Et le but, c'est éventuellement d'arriver à en faire un deuxième sur Sherlock Holmes, justement pour la gamme. Sachant que En fait, ce ne sera pas simplement un Witness 2, il y aurait une nouvelle mécanique. Enfin, il y aura la mécanique à l'ancienne. En gros, la moitié des enquêtes sera à l'ancienne. Et la deuxième sera une nouvelle mécanique, toujours basée sur la mémoire, mais qui changerait les données de jeu, qui sera un peu plus comme une mini-enquête de Sherlock Holmes Détective Conseil.
D'accord, et du coup, ce serait le même boîtage, le même format pour créer une collection ou
Alors là, c'est un projet, donc je peux pas te dire pour l'instant. Déjà, il faut que je persuade Dominique, qui nous a écrit quelques enquêtes. Elles sont prometteuses, mais il en faut 60. Donc voilà.
Ah, et puis c'est du gros boulot sur Witness.
Ah oui, énormément de boulot. Et en plus, après, les traducteurs, ils nous remercient pas, parce que quand c'est des jeux de mots, des trucs comme ça, généralement, les traducteurs passent un bon moment avec Witness. Mais là, c'est vrai que nous, on est devenu un peu le fléau des traducteurs, hein, parce que entre tous les trucs narratifs qu'on sort, ben voilà. Mais bon, ça les fait bosser.
Ouais. Puis les illustrateurs aussi, oui. Entre Time Stories, 59-59 qui s'annoncent, ça fait aussi pas mal de boulot d'illustration.
Oui, bah d'ailleurs, c'est un petit peu notre problème aussi, c'est que, par exemple, Time Stories est vu comme un jeu cher, mais c'est parce que, là, une des premières raisons, c'est parce qu'il coûte très cher à illustrer. C'est-à-dire que, c'est vrai, quand on y pense, un jeu de cartes traditionnel, il y a quelques cartes à illustrer, enfin, un jeu de plateau traditionnel, il y a quelques cartes à illustrer, tout ça. Time Stories, c'est à chaque fois 110 illustrations à faire, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ça rend le jeu malheureusement cher. On va tâcher de faire un peu mieux pour 59-59, sachant qu'il y a moins de cartes et des illustrations. Quand même, on n'a pas les grands panoramas, on a plus des détails, des objets, vu que c'est une escape room, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'on devrait arriver à avoir un prix un peu meilleur sur 59-59.
Tant mieux. Et alors donc, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments, des projets? Je suppose qu'il y en a beaucoup, mais... Mais oui, des choses dont tu pourrais nous parler maintenant, qui ne sont pas à l'horizon 2018-2019, quoi.
Dans les projets à court terme, j'espère, parce qu'on va trouver du temps, il y a deux choses. On a Les Maîtres de l'Italie, qui est un jeu où l'Italie de la Renaissance, où on essaye de prendre le contrôle, etc., etc., de Pascal Ribro, sur lequel on va se mettre à bosser dès qu'on aura un petit peu de temps, et ça, c'est le problème, on manque de temps. Et il y a aussi La Horde du Contrevent, qui est une licence donc basée sur le roman, et qui est un jeu semi-coop, on va dire, sur la Horde du Contrevent. Ça, c'est les deux prochains projets Istari. Dès qu'on a un peu de temps, on s'y met.
Tu parles de licence, c'est un sujet qui me tonne toujours, parce qu'il y a FFG aux US qui travaille beaucoup sur ces licences, qui ont des grandes licences internationales. On a beaucoup de choses en BD, en roman, en France, et j'ai le sentiment que dans le jeu de société, on ne se penche pas réellement sur le sujet. Alors, à Wernsberger ou autre, sort de fois un petit truc à licence autour d'une série télé, mais il y aurait peut-être plus des choses à faire autour, et Space Cowboy peut-être pourrait être moteur sur le sujet, non ?
Oui, alors après, la licence, c'est toujours vu comme un sujet un peu touchy en France, pour deux raisons. La première, c'est que les produits à licence sont quelque part une mauvaise presse, peut-être à cause de mauvais produits à licence qui sont partis dans le passé. C'est-à-dire qu'on va dire que souvent, les gens ont tendance à considérer que les produits à licence, c'est un mauvais jeu sur lequel on a mis une licence qui vend bien. Donc, c'est un peu compliqué. Nous, quand on a fait Witness, on a choisi la licence Black & Mortimer parce qu'on pensait que ça correspondait tout à fait à l'univers qu'on essayait d'obtenir. Mais bon, et d'ailleurs, je ne pense pas que ça a été mal vécu. Après, Sherlock Holmes, c'est une demi-licence, mais la licence, c'est un peu compliqué parce que déjà, ça coûte cher. Honnêtement, tu vas verser 10% de tes revenus à quelqu'un. Donc, tu vas essayer de trouver des licences porteuses. Mais le problème, c'est que sur une licence très porteuse, ils vont exiger un jeu qui se vende très bien. Donc, par exemple, pour Istari, c'est un peu compliqué de faire des licences parce que nous, on ne vend pas non plus des centaines de milliers de jeux. Donc, voilà. Après, c'est pour ça que c'est plutôt des jeux Disney qui sont vendus au mass market, etc. Donc c'est un peu compliqué et surtout c'est coûteux la licence, donc faut la faire à bon escient, je dirais. Donc voilà, là pour nous Witness c'était à bon escient, et La Horde du Contrevent c'est plus un coup de cœur généralisé. On nous a proposé un jeu sur La Horde du Contrevent, j'aimais beaucoup le roman et on a discuté avec La Volt qui est l'éditeur, qui sont des gens avant tout passionnés avant d'être intéressés, donc on arrive à trouver des accords, quoi.
D'accord, merci beaucoup. Et un dernier mot peut-être?
Merci à tous les gens qui ont pris le temps de m'écouter bavarder pendant une heure. Et à bientôt.
Merlin Duménil, toujours au PEL 2016. Je suis sur le stand de Libellude avec Léa. Bonjour Léa.
Bonjour.
Alors, parle-nous un peu du PEL 2016 de Libellude.
Ben pour l'instant, ça se passe très bien. Malgré les quelques gouttes de pluie, on a encore du monde. Ça se passe très bien. Nous, on présente uniquement des prototypes. Donc, pas de jeux édités. Donc, on présente les choses qui vont arriver pour 2017.
C'est un peu l'esprit de PEL, quelque part, aussi.
C'est ça, exactement. On avait vraiment cette volonté de montrer des choses inédites en avant-première.
D'accord. Donc, je vois que vous avez surtout des tables de Dice Forge. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr. Alors, Dice Forge, c'est un peu notre grosse sortie de 2017. C'est un jeu de dice crafting. Donc, en fait, c'est un jeu dans lequel on va avoir des dés dont les faces sont amovibles. Donc, on va pouvoir les remplacer en cours de partie et améliorer notre dé, le rendre plus puissant pour accumuler encore plus de points et donc se développer, engranger plus de points.
Souvent, les jeux de deck building s'adressent plutôt à des joueurs experts ou des joueurs, habitués. À quel public s'adresse ce jeu ?
Alors, ça s'adresse aux joueurs expérimentés, mais aussi aux joueurs qui ont un peu moins l'habitude de jouer. En fait, finalement, le résumé d'un tour est assez simple. Donc on va comprendre les règles assez rapidement. Les effets de cartes pour le set de base sont assez simples. Donc finalement, en un quart d'heure, on va pouvoir expliquer le jeu et les gens qui ne sont pas forcément très joueurs vont pouvoir y jouer. Mais ça va également intéresser les joueurs plus expérimentés, aussi bien l'installation de base que les cartes un peu plus avancées pour la version expérimentée.
D'accord, je vois qu'au niveau des illustrations, on est un peu dans l'esprit de Looney Quest ou de le Royaume de Xidith. Vous gardez volontairement ce style pour vos jeux actuellement ou c'est une opportunité par rapport aux produits que vous présentez ?
Alors déjà, on avait très envie de travailler avec Biboon. Donc on est très content qu'il ait accepté le projet. Et effectivement, on a l'impression qu'on commence à être assez connu pour cette petite touche graphique. Donc on a à cœur de la conserver pour que quand les gens viennent en festival et qu'ils voient un peu un jeu, ils se disent « Ah, ça, on dirait un jeu Libellude !» Donc effectivement, on essaie vraiment de conserver cette patte graphique.
C'est prévu pour Essen 2016 ou un peu plus tôt, un peu plus tard ?
C'est prévu pour 2017.
2017, donc ok. Et il y a un deuxième prototype qui tourne.
Mm-hmm. Le deuxième prototype est un peu moins avancé. C'est un nom provisoire pour l'instant, il s'appelle Castle Rush. C'est un jeu qui mélange la rapidité et la majorité. Donc on va également jouer avec des dés. Voilà, on est très dés pour 2017. Et en fait, on va essayer d'être majoritaire sur le plus de terrains possible. Mais tout ça, en fait, va se passer en simultané. Donc c'est un jeu qui est très chaotique, très frénétique. Mais en même temps, il va y avoir un peu de stratégie puisque les dés ont différents pouvoirs. On va pouvoir expulser d'autres dés, changer les gains que vont avoir les gens. Donc il y a un petit peu de stratégie, mais tout ça très très vite.
D'accord. Il y a un autre jeu de style qui était sorti chez Queen Games, si je me souviens bien, où on jetait les dés de manière frénétique en coopératif. Au niveau mécanisme, comment ça se passe ? On jette ses dés jusqu'à obtenir tout ce qu'on veut ou il y a une autre façon de procéder ?
Alors là, on va jeter l'ensemble des CD et s'il y a un dé qui nous plaît, on va prendre ce dé et le placer sur un terrain. Une fois qu'on a placé un dé, on est obligé de relancer l'ensemble de CD. Si jamais le résultat qu'on a ne nous plaît pas, on peut tout relancer. On peut tout relancer autant de fois qu'on veut jusqu'à obtenir le résultat qu'on souhaite.
Sachant qu'effectivement, on ne prendra qu'un des dés parmi ceux qu'on a obtenus et les autres, on sera obligé de les relancer quoi qu'il arrive.
C'est ça. Et en fait, tout va très vite, donc il faut vraiment prendre des décisions rapides. Et en fait, les 1 et les 2, par exemple, sont pas très forts en termes de majorité. Par contre, ils vont donner un pouvoir assez puissant qui est d'expulser le dé d'un autre joueur pour regagner un peu de terrain sur la majorité, par exemple. Donc en fait, il va falloir un peu gérer entre mettre des dés qui sont puissants mais qui n'ont pas d'effet et mettre des petits dés peu puissants pour la majorité mais qui ont des pouvoirs.
D'accord, et donc ça, c'est également un projet pour 2017.
C'est ça, c'est un jeu d'Antonin Bocara et qui est également prévu pour 2017 et voilà, 2017.
D'accord, donc on a parlé de Dice Forge, de l'illustrateur Biboon. L'auteur de jeu de Dice Forge ?
C'est Régis Bonessé.
Lui-même ? Oui. N'a jamais servi que par soi-même des fois ?
C'est ça.
Eh bien écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette petite présentation de ces deux jeux et puis bonne fin de PEL.
Merci.
Parce que PEL, c'est pas que des éditeurs, des auteurs, c'est aussi des joueurs. Je suis sur le stand Yellow où il y a des joueurs qui essayent Welcome Back to the Dungeon, future sortie de chez Yellow. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, Comment se passe PEL pour toi ?
Alors très bien, on vient chaque année depuis quasiment le début. Cette année, la grosse différence par rapport aux années précédentes, c'est que PEL a changé de lieu. Et on se retrouve sur la pelouse de Rilly, qui n'a de pelouse que le nom, hein, parce que ça reste extrêmement sablonneux et extrêmement poussiéreux. Et dans un espace qui est donc beaucoup plus grand, beaucoup plus agréable et maintenant beaucoup plus adapté au public, au volume du public qui vient à PEL.
J'ai quand même noté qu'il y avait moins de sable ici qu'il n'y en avait sur l'ancien site.
Oui, évidemment, mais moi qui ne connaissais pas la pelouse de Rilly, ça a été un peu une petite déception quand je me suis rendu compte que c'était du béton et du gravier.
Et mais on trouve de tout en termes de visiteurs, et il y a même des amis venant de province qu'on peut croiser sur le salon. Bonjour.
Bonjour.
D'où viens-tu ?
Je viens d'Annecy.
Annecy-Paris, ça fait une trotte. Spécialement pour PEL alors ?
Exclusivement pour PEL, ouais.
Faut être motivé. C'est la première fois que tu viens ?
C'est ma première fois, ouais.
Alors comment tu trouves ce salon qui est quand même très différent des autres salons ?
Eh ben, très très bien, d'être en plein air comme ça avec le soleil, un petit peu de pluie aujourd'hui, mais non, bien, excellent. Un peu de vent et du coup un peu pénible avec certains jeux de cartes, notamment.
Ah oui, ça semble, il y a même eu 2-3 gouttes de pluie tout à l'heure, mais ça s'est vite arrêté, heureusement. Paris Ludique, c'est également des joueuses que je me fais un devoir d'interrompre. Là, vous essayez Shotten Totten ?
J'ai pas entendu.
Vous êtes en train d'essayer Shotten Totten, de la future sortie de Yellow Minigames ?
Ouais. Et quand on a les règles qu'il faut, ça se joue vachement mieux. Et ça se joue bien.
Oui, oui, c'est un super jeu. Après, je pense que la réédition ne lui fera que du bien, mais c'est un super jeu.
C'est un vrai jeu d'enfoiré comme il faut.
Voilà. Et alors, PEL, pour toi, c'est quoi ?
C'est des amis, des jeux et des rencontres.
Eh bien, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je ne vous interromps pas plus longtemps dans vos parties.
Merci.
Mais PEL, c'est aussi l'occasion pour de tout jeunes éditeurs de se lancer pour la première fois. Et là, je suis en compagnie de Guillaume de Mouche Games. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, tout nouvel éditeur, donc parle-nous un peu de ta société.
Alors voilà, donc nous sommes une société qu'on a créée en février de cette année. Et là, on présente notre tout premier jeu, donc Belloum, qui est actuellement en version quasi finale, donc on présente pour la première fois au grand public, et qui fera l'objet donc d'une campagne de financement participatif en janvier 2017 dans le but d'une publication en 2017.
D'accord, donc là c'est sa première sortie. Je suppose que vous allez continuer du coup à le présenter dans les différents festivals et événements de cette année 2016.
Tout à fait. Et on est de base en région parisienne, donc on va le présenter dans déjà les magasins de l'Île-de-France, et après effectivement continuer toute l'année à le présenter, à prendre des retours et à partager ce jeu.
Vous avez prévu d'être à Essen ou au Flip par exemple ?
Alors Essen, c'est un peu au-delà de notre budget pour l'instant, on est encore un petit éditeur tout jeune, mais ce sera sûrement pour l'année prochaine.
Et le Flip non plus ?
Le Flip, on va voir si on peut venir. En fait, on est en train de voir les différents festivals et autres auxquels on participera. Mais effectivement, il faut qu'on fasse des choix parce qu'on ne peut pas participer à tout.
Ah oui, forcément. Donc pour l'instant, ce sera surtout en région parisienne pour nos auditeurs parisiens. Vous pourrez le retrouver dans les boutiques et peut-être dans les bars à jeux de la région parisienne. Alors parle-nous un peu du jeu maintenant.
Alors en fait, il s'agit d'un jeu qui se passe. Donc c'est un jeu d'affrontement dans la Grèce antique qui dure environ 20-25 minutes. Qui pourra se jouer également en équipe. En termes de règles, c'est un genre de deck building, si on peut dire, d'affrontement. Donc, c'est-à-dire avec un peu comme un mélange de Star Realms et de Magic, si on peut dire, où on a vraiment des deux camps qui vont s'affronter avec des créatures qui vont attaquer, qui vont défendre, etc.
D'accord. Et c'est un jeu exclusivement à deux joueurs ?
Non, ça va être un jeu de 1 à 3 à 4 joueurs. Donc il y aura des règles en équipe pour jouer à 2 contre 2. Et il y aura des règles également en solo.
D'accord. Donc ça va être une boîte de base qui va comprendre toutes les cartes nécessaires. Pas de modèles à collectionner, pas tout ça. Ou peut-être des extensions déjà prévues ou pas.
Alors le jeu de base permettra de jouer sans souci. À terme, on prévoit effectivement des extensions. De toute façon, c'est un genre de jeu qui appelle à des extensions. Mais qui ne sont pas encore développés. Pour l'instant, on prévoit déjà de sortir le jeu, et après, et les extensions viendront après.
C'est typiquement le genre de choses que pourrait débloquer la campagne participative en cas de succès, je suppose.
Par exemple, effectivement, la campagne pourra accélérer les extensions si jamais ça marche bien. Après, il y en aura toujours. On a tellement d'idées qu'on va quand même faire quelques extensions au minimum pour nous faire plaisir, même si ça marche pas plus que ça.
D'accord. Alors, c'est vrai que le monde du jeu est foisonnant, le marché est en pleine expansion. Pourquoi avoir tenté l'aventure plutôt que porter le jeu par un autre modèle, ou pourquoi maintenant, pourquoi avoir décidé de se lancer?
Ah, parce qu'en fait ça c'est historique. Donc au début, quand j'ai commencé, j'étais juste un joueur, et avec le temps, en jouant à des jeux, je me suis dit c'est dommage, telle règle, j'aurais pas vu ça comme ça, j'aurais pas fait pareil, etc. Et à force de trouver des critiques comme ça à des jeux déjà édités, je me suis dit pourquoi pas me lancer et faire mon propre jeu. Donc petit à petit, je commence à faire mon proto que je fais tester à mes amis. Les retours sont plutôt bons, donc du coup, pourquoi pas faire des images, pourquoi pas créer un univers, créer machin. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à un moment où effectivement, l'étape d'après, c'était soit on se l'édite nous-mêmes, soit effectivement, on cherche un éditeur pour le faire à notre place. Et le fait de l'éditer nous-mêmes nous permet de garder une totale liberté sur l'univers, sur les images, sur l'ergonomie, le design, d'être totalement libre de faire ce qu'on veut. Parce que l'idée, c'est avant tout de se faire plaisir avec des jeux qu'on aime.
D'accord, donc on est dans une démarche classique d'auto-édition finalement.
Voilà, après si ça veut rire, on verra plus tard ce que ça donnera, mais c'est effectivement une démarche plutôt classique, je pense que beaucoup de personnes commencent comme ça.
Oui, tout à fait, certains qui sont maintenant dans des grosses sociétés ont démarré comme ça. En tout cas, merci beaucoup, peut-être un point ou une chose à ajouter.
Ornithorynque.
Très bon choix. Eh bien, merci beaucoup, et puis bon courage, et puis j'espère que ça marchera pour vous.
Merci.
Bonjour, je suis Fendoel, et je suis juste après PEL, et je suis avec une personne que vous connaissez peut-être déjà. Bonjour.
Salut.
Qui es-tu ?
Donc je suis Thibaut de Triton Noir, l'auteur et l'éditeur de V Commando. Donc on était présent pour PEL, mais j'ai fait le déplacement du Canada et puis donc j'étais content de pouvoir faire des démos pendant les deux jours là sur le salon.
Donc en fait on a la chance de t'avoir en France, donc j'en ai profité pour faire une suite à une interview qu'on avait fait dans un numéro précédent. Et donc pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en était. Alors première question que je voulais te poser. Déjà, PEL, quel est le bilan, à quoi ça t'a servi, PEL, ou le fait de venir? Je crois que tu faisais une tournée en Europe, en finale, donc voilà un petit peu à quoi ça sert de faire tout ça.
Alors, PEL, moi c'était la première fois que je venais, donc j'ai été assez impressionné moi par le salon, le nombre de visiteurs, c'était vraiment chouette. Moi j'ai l'impression que c'est un des salons où j'ai fait le plus de démos sans m'arrêter. De par rapport à tous ceux que j'ai pu faire, hein, entre SN, voilà, je vais à la Gen Con cette année, on va voir comment ça se passe, je pense que ça va être bien. J'étais aussi à la UK Games Expo au début du mois, voilà, en Angleterre, donc j'étais venu pour ça et pour PEL, et puis entre les deux, continuer de travailler avec la plupart des gens avec qui je travaille qui sont finalement en France, donc voilà, c'était l'occasion de les voir. Donc PEL, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Non, vraiment, on a eu de la chance qu'il fasse beau aussi, ça c'est sûr. Et donc j'ai eu beaucoup de backers en fait qui sont venus tester le jeu. Donc ça c'est toujours cool. Moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir leur montrer le jeu et puis de voir qu'ils sont contents en général. Enfin, il y a pas eu d'annulation de pledge après les démos. Donc non, voilà, ça s'est bien passé pour moi. J'étais content.
Alors en fait, V Commando, ça fait un certain nombre de mois, peut-être même d'années que tu es dessus. On en est où un petit peu dans le développement du jeu?
Alors oui, ça fait 2 ans et demi que je suis dessus à plein temps. Où est-ce qu'on en est? Là, en fait, on a aujourd'hui, j'ai apporté, on pourra pas voir ça dans un podcast, mais j'ai apporté les premières boîtes, en fait, des extensions, des premiers exemplaires, en fait, de pré-tirage, de l'imprimeur, contenant, donc tout le matériel du jeu. L'idée, c'est de valider que tout est bon, une fois c'est-à-dire qu'en fait, tous les fichiers sont prêts, et vérifiés déjà. Mais là, on a une version physique du jeu, donc si tout est bon, après, il lance la production, donc ça va démarrer. Là, c'est une question de jour maintenant, quoi.
Donc en fait, tout est bon?
Là, oui, et ça fait vraiment du bien, voilà, après toutes ces années, là, parce que ça fait 2 ans et demi, c'est ça, je l'ai dit, je crois, mais ça fait plaisir de voir les choses se concrétiser enfin.
Et tu penses que ça pourrait arriver à peu près vers quelle date? Est-ce que tu as des informations dans ce sens-là?
Alors nous, pour l'instant, on est toujours calé sur route. Je suis en train de voir avec, je suis en train d'attendre des devis plus précis pour notamment pour le shipping, enfin donc pour les frais de port, enfin pas les frais de port, pardon, mais pour les voyages en bateau qui sont assez difficiles à estimer. Moi, ce que j'ai vu, c'est que si le bateau est plein et qu'on charge les boîtes dedans, bah, il part. Si le bateau n'est pas plein, bah, il peut attendre une semaine, deux semaines, trois semaines avant de partir du port. Donc, c'est assez délicat d'avoir des dates. Donc, je suis en train d'essayer de clarifier ça. Donc, des infos bientôt. De toute façon, le jeu sortira. C'est absolument certain qu'il sera là à Essen en boutique. Et moi, c'est absolument certain également que les backers seront livrés avant. Donc, ça, c'est une entente qu'on a. Donc, ça là-dessus, pour moi, c'est important. Donc j'aimerais dire que dans le pire des cas ce sera septembre, mais pour l'instant je préfère attendre vraiment une confirmation avant d'affirmer une date. Et puis après ça va dépendre aussi de là où sont localisés les backers. Pour la France, c'est Philibert qui va faire le dispatch, donc ça va être assez rapide. Une fois qu'ils ont reçu les boîtes, les boîtes vont arriver rapidement. Dans d'autres régions du monde, ce sera probablement différent, mais aujourd'hui voilà, j'ai pas encore les infos hyper précises là-dessus.
Mais c'est déjà pas mal que les backers aient leur boîte avant les boutiques. Il y en a qui devraient en prendre de la graine. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et ensuite, après Vekomando, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pars en vacances aux Bahamas? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Est-ce que tu... Voilà, c'était quoi cette idée de Vekomando? Est-ce que c'est un premier projet pour quelque chose de plus vaste après? Ou est-ce que tu t'arrêtes là, finalement?
Alors moi, l'idée vraiment depuis le début, c'était de me lancer en tant qu'éditeur, donc vraiment d'en faire un métier. Donc c'est pour ça que j'ai quitté mon job dans le jeu vidéo avant. Donc pour moi, c'est une première étape. Bon, c'est une première étape où je me suis placé la barre assez haut. Donc et pour la suite, on en discute en fait assez sérieusement. J'y réfléchis, j'échange soit avec les gens de l'équipe, soit avec Morning Players aussi, notre distributeur, pour voir un petit peu ce qui paraît le plus sensé de faire après. J'en parle aussi avec, j'ai revu d'autres éditeurs ou des gens que je connaissais voilà, on avance là-dessus. Pour l'instant, je peux rien dire. Il y a des idées cool, mais faut juste se poser pour vraiment puis commencer à faire des protos aussi pour voir si ça tient la route et si c'est des bonnes idées ou pas. Parfois on a l'impression qu'on a une bonne idée, puis en fait en testant on se rend compte que ça marche pas, donc je préfère pas en parler aujourd'hui. Voilà.
Donc en fait, si je résume bien ce que tu sous-entends, ça serait un jeu que tu ferais toi-même encore. Ça serait pas, on peut pas t'envoyer de proto que tu pourrais éditer.
Alors c'est même pas sûr. Non, alors justement, je veux aussi me réorganiser parce que j'ai vu que essayer de faire tout. Alors je fais pas tout seul. Il y a des dizaines de personnes qui ont travaillé sur Vekomando, mais c'est vrai que j'en ai fait une grosse partie et je chercherai. À mon avis, je vais chercher effectivement des auteurs, mais sans doute plus pour bosser en binôme sur des prochains projets, notamment des idées qui sont. Il y a des idées dans la veine de Vekomando, il y a des idées qui le sont beaucoup moins, et notamment qui seraient dans des genres de jeux que moi je maîtrise pas trop. Donc peut-être même que moi je chercherais peut-être des auteurs dans d'autres genres, mais aujourd'hui, il faudrait déjà être sûr que ce soit la direction qu'on va prendre.
Donc ça va être bien mystérieux.
Je suis désolé. Non, mais il y a vraiment sincèrement, il y a des idées un peu dans tous les sens. Et comme je disais, voilà, enfin, je vais pas me répéter, mais et aujourd'hui, il faut vraiment que je me pose et que je fasse des protos, je pense, pour creuser un peu tout ça. J'ai un stagiaire aussi qui vient cet été là bosser avec moi tout le mois de juillet. Donc c'est clair que lui, je vais le mettre sur différentes idées et puis lui dire, creuse et puis voir un peu où ça nous mène.
Moi, j'ai des idées. Vekomando le party game. Je vais t'en parler après. Ben ok, je te remercie beaucoup Thibaut. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Ben non, écoute, rien de particulier. Si, peut-être le dire que ma venue en France et en Angleterre là a été vraiment très positive pour le jeu, c'est-à-dire de tous les côtés, que ce soit Morning Players, que ce soit les journalistes, que ce soit les joueurs, on commence à sentir un potentiel peut-être plus grand qu'on l'imaginait pour le jeu. Donc ça, c'est pour moi, c'est super encourageant. Donc ben voilà, j'espère que ça se confirmera une fois que le jeu sera sorti. Je l'espère en tout cas.
Merci beaucoup Thibaut.
De rien, à bientôt.